Salut, c'est Radio Libertaria, toujours sur Radio Libertaire 89.4, et c'est Pascal pour encore une heure et demie pour parler des établissements scolaires dans leur quartier. Comment vit un quartier, comment vit un établissement, et surtout comment vit l'un dans l'autre, ou l'autre dans l'un. Alors, on va commencer d'un niveau assez local. Là, on est dans l'Est parisien. Raj, toi, tu travailles dans le quartier des Amandiers. Tu y vis aussi?
Oui, c'est ça, ouais, ouais. Dans le 20e.
Donc, le collège, c'est le collège Douaneau, qui est rue des Amandiers.
Robert Deneau.
Qui est un quartier populaire de... entre Ménilmontant et plus haut.
Gambetta.
Et voilà. Donc toi, tu travailles dans le collège, tu travailles aussi dans les écoles,
ouais,
pour
c'est ça.
Les dispositifs coup de pouce.
Pouce.
Et comment toi tu vois le rapport des élèves au bahut? Comment tu vois la vie des enfants déjà dans ce quartier?
Bon bah moi je suis né dans ce quartier, j'y ai grandi depuis 10 ans. Enfin j'y suis revenu depuis 2 ans. Et bon voilà quoi. En général, ce qu'on voit c'est que déjà ils s'ennuient pas mal. Y a pas grand chose à faire, hein. Pas mal de béton. Et après, bon, bah, la vie au collège, c'est un peu ce qui leur reste, c'est un peu l'endroit où ils se rencontrent, hein, en dehors des cages d'escalier, des petits squares qui ferment tôt. Bon, bah, en général, ils s'ennuient, hein, quand même. Ça, c'est la vie du quartier, ça se voit, hein. Je les vois passer tous les jours, y a pas grand chose à faire. Y a un centre d'animation qui propose des choses, qui essaie de faire bouger les trucs, mais bon, en général, c'est un ennui. Et ils trouvent des choses pour s'amuser, mais c'est pas.
Ouais, ça, on en a fait aussi.
Ouais. Puis du coup, après le collège.
C'est Jérôme, qui vient d'arriver d'ailleurs.
Salut.
Salut, Jean.
Ouais, t'as pas trop te raconter non plus, hein.
Et donc toi en fait au niveau de ton travail, donc tu as affaire à ces enfants que tu vois aussi dans le quartier. Mmh. Est-ce que leur rapport au travail, enfin au collège, est un rapport de défiance, un rapport. Faut savoir que le collège, on en a déjà parlé souvent là, dans cette émission, c'est quand même une entreprise de tri social, c'est une entreprise un peu décérébrante et assez violente. Ce collège, ils y vont, ils ont pas le choix. Ouais. Dans quel état d'esprit ils rentrent dans l'établissement?
Bon, après, voilà, je pense que c'est un peu pour tout le monde le cas. On y va toujours à reculons à l'école un peu, hein. À part pour la récré et voir les potes le matin, les salles de classe. Mais après, il y a aussi cette image de l'école qui représente l'autorité, après avec tous les codes que ça implique. Mais dans l'ensemble, pour la plupart des gamins, ils sont quand même contents d'aller au collège.
Bah le truc c'est que moi donc je bosse avec Raj à Douaneau et on a souvent l'image des gamins qui vont sécher les cours et qui peut-être qu'à une époque c'était ça, on séchait les cours, on allait, en tout cas moi quand j'étais môme, quand je séchais les cours j'allais pas au collège, c'est-à-dire j'allais au parc urbain derrière le quartier, j'allais acheter à bouffer des conneries chez l'épicier du centre commercial de ma cité ou des trucs comme ça. Mais là les mômes, ce qu'ils font, c'est que le collège, ça devient une sorte de point de rendez-vous. Ils se voient et bizarrement, ils sèchent, mais en étant à l'intérieur du collège. Donc, ils se retrouvent par exemple.
Ils sèchent en interne.
Ils sèchent en interne, en fait. Et ça, c'est un phénomène que bon, d'autres sociologues ont écrit là-dessus sur l'absentéisme à l'intérieur du collège. Que je sais pas si c'est un phénomène nouveau, comment on peut l'analyser, etc. Mais en tout cas, ça, c'est un truc que nous on constate, c'est qu'ils sont à l'intérieur du collège, ils sont entre eux, ils sont super contents de se voir. Et donc, je sais pas si c'est cette joie qui déborde. Et donc, ils en vont pas en cours. Ils restent entre eux dans certains recoins du collège. Bon, après, ça, c'est leur truc. Ils savent où se mettre pour être tranquille et tout. Et donc, moi, c'est bizarre ce rapport. Donc, on va au collège. On n'a pas envie d'aller en cours. On a envie d'être avec les potes. Mais quand même, le collège, il représente une sorte de lieu de rendez-vous, quoi.
Alors, est-ce que le quartier a à voir avec le fait que finalement, le collège soit un lieu un peu central?
Le collège, ouais, enfin, je sais pas ce que t'en penses, Raj, mais il est assez grand, il a un air assez austère.
Il regroupe, en fait, c'est un complexe qui regroupe l'école primaire et le collège, qui a été fait il y a 20 ans. Hein, on en a fait un peu, c'est un peu l'usine de l'éducat, quoi. Mmh. Et ouais, voilà, il y a pas grand chose autour, hein, vraiment, quand tu regardes.
Donc les mômes, ils sont là du 20e, il y en a qui viennent de Belleville, ils se donnent rendez-vous là au collège, bon. Enfin, c'est un lieu connu dans le quartier, quoi.
Parce que autour, finalement, il y a quoi? Il y a un petit parc à Belleville, mais c'est déjà un peu loin.
Ouais, déjà, ça c'est loin. Ils ont un terrain, ce qu'ils appellent masqué, le TEP, là. Un terrain de foot en tarmac, avec même pas de cage. Il y a un square qui ferme l'hiver assez tôt et l'été c'est pour les enfants. Enfin, on voit ce que c'est un square, quoi. C'est pas un endroit où tu peux traîner, quoi.
C'est pas un super squat.
Non, c'est vraiment, généralement, c'est là que moi j'habite au rez-de-chaussée. Il y a une cage d'escalier, il y a des escaliers, c'est là. Ou sur les trottoirs.
Là, on est à Paris, donc c'est quand même un environnement très, très urbain. Beaucoup plus que parfois en banlieue. Moi, je viens de banlieue, j'ai grandi à Aulnay. Le collège, derrière, il y avait un énorme parc. Si t'as envie de sécher, tu vas te mettre sur un banc au parc. Là, la possibilité d'évasion, entre guillemets, elle est très réduite parce que on est en plein milieu de Paris, donc t'as des cafés, t'as des trucs comme ça, mais t'as pas vraiment un lieu où les mômes ils peuvent aller s'aérer, enfin, entre guillemets, si je puis dire, quoi.
Ouais, moi je viens de la Villeneuve à Grenoble. Alors, tu sais, c'est depuis cet été, quand tu dis je viens de la Villeneuve, ça fait comme si tu disais je viens des 4000, tu vois. Oh, ça fait un peu coriace et tout. Mais c'est vrai que la Villeneuve, c'est un quartier du sud de la ville, juste en périphérie, c'est pas vraiment du tout la banlieue, c'est vraiment intégré à la ville. Il y a même un grand parc, c'est un truc génial qui a été créé en 70, un truc comme ça. Et le collège de la Villeneuve, où à l'époque où j'y étais, donc s'il y a comme il y a 25 ans, en gros,
ça ne rajeunit pas
du tout. Et le collège Villeneuve, en fait, était intégré à la barre. C'est intégré à l'Arlequin, qui est donc la grande barre HLM qui est là-bas. Et donc les cours étaient dans les coursives. Donc en fait, tu allais en cours, mais tu montais, prenais l'ascenseur comme si tu allais chez toi ou chez ton copain, quoi. La cantine, pareil, était intégrée dans l'espace au rez-de-chaussée, au premier étage, avec des médiathèques, des bibliothèques, etc., des centres sociaux. Et en fait, on n'allait pas vraiment à l'école. C'est ça aussi qui était intéressant, c'est que c'était une des expérimentations en fait à l'époque où Grenoble était une ville un petit peu justement où pédagogiquement le maire de l'époque du Bedou qui avait fait pas mal d'efforts là-dessus était bien branché, freiné et compagnie. Et donc le quartier de la Villeneuve a été pilote dans plein de domaines justement. Donc moi j'ai commencé en primaire, j'étais à l'école du Lac qui était une école primaire où là on travaillait qu'en groupe, il n'y avait pas de rapport maître-élève, c'était vraiment toujours petit groupe, toujours des tables rondes, tu sais, avec des petits sièges autour, il n'y avait pas le côté configuration de la classe avec
configuration amphithéâtre sans les étages,
voilà,
quoi.
Voilà. Et c'est vrai que donc jusqu'au collège j'étais à la Villeneuve et après donc je suis allé au lycée Mounier dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est vrai que le fait qu'effectivement que ce soit intégré à la barre quelque part, tu vois, ça enlève ce côté oui on va trouver un endroit pour se rassembler. Et c'est vrai que l'école dans plein de villes, dans plein de quartiers aujourd'hui, ça devient finalement le centre de rendez-vous parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre hein, à part des bars et des commerces.
Il y a désertion de pas mal de commerçants dans pas mal de quartiers.
Oui, voilà, c'est ça en plus. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport à ce que vous dites alors sur l'aspect collège-quartier, moi j'ai souvenir que c'était intégré dans les murs, quoi, tu vois, et c'était ça faisait partie justement de et aujourd'hui, parce que je suis retourné il y a quelques mois, aujourd'hui donc le collège Villeneuve qu'on appelle le collège Villeneuve n'existe plus, l'aspect expérimental aussi a sauté et ils ont construit une espèce de soucoupe volante. Honnêtement, c'est un truc noir, on dirait vraiment un ovni, quoi, et entouré d'une espèce de grillage énorme de 2 mètres de haut. Le collège Lucie Aubrac, qui est vraiment en plein cœur du parc de la Villeneuve. Et bizarrement, parce qu'évidemment le quartier il a périclité, ça devient vraiment le quartier nord de Marseille, hein, c'est un peu l'équivalent. Tout à l'heure on entend justement des témoignages là-dessus. Et c'est vrai que ce collège Aubrac, il fait vraiment, pour le coup, ovni, quoi. Et il est évidemment de plus en plus délaissé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de familles qui sont à la Villeneuve et dans les petits lotissements un peu autour, un peu plus, tu vois, un peu plus bourgeois, qui évidemment, parce que c'est la Villeneuve, réputation, et donc ils les mettent dans les collèges un petit peu plus loin, pas forcément le privé, parce qu'il y a d'autres collèges dans le coin, pas très loin. Et voilà, donc en fait, finalement, cette espèce de concept où l'école était vraiment intégrée à la vie quotidienne, je pense que ça, c'est vraiment passé. Hein. J'ai vu justement aux infos cette semaine, t'as dû voir ça aussi, qu'ils veulent créer, évidemment, encore une fois, dans le côté expérimental, ils veulent créer deux établissements séparés entre la 6e, 5e et la 4e, 3e, pour créer encore plus cette espèce de sas de tri social, et donc avoir justement l'espèce d'évaluation à la fin du la cinquième.
Ça existe, hein, je crois. Ça, ça, moi, je sais que le collège des 3000 où j'ai grandi à Aulnay, quand ils l'ont détruit pour en reconstruire un neuf, ils avaient dans le même temps entamé la construction d'un nouveau collège Christine de Pisan, je crois, c'était à côté des Emmaüs, Cité Nouvelle. Et donc pendant, je crois que ça a duré un an, deux ans. Les sixièmes, cinquièmes étaient dans une cour et les quatrièmes, troisièmes étaient dans une autre cour. Et comme il y avait un problème des enfants des 3000 qui allaient dans le collège de la cité en face, il fallait qu'ils gèrent des problèmes de rivalité de quartier, de violence. Donc ils avaient séparé les grands des petits, ils avaient mis en place tout un tas de trucs.
Donc, ils ont coupé le collège en deux.
Et l'argument qu'ils donnent, c'est ça qui est aussi assez intéressant, c'est qu'ils donnent un argument qui est vraiment pourri. Ils disent c'est pour favoriser la mixité sociale. Alors que dans le même temps, ils suppriment les cartes scolaires et ils favorisent les dérogations justement pour supprimer la mixité sociale et pour faire des collèges de pauvres et des collèges de riches.
Ouais, pour qu'il y ait
simplement,
une élite,
ils vont essayer de casser la différence grand-petit pour faire une sélection au milieu.
C'est bizarre, à chaque fois qu'ils parlent de mixité sociale, c'est toujours pour virer les plus démunis, les plus pauvres, pour rajouter plus de bourges.
Pour prendre ce qu'ils estiment être la petite élite des quartiers pauvres pour la mettre dans un...
Crème. En revanche, pour faire l'inverse, on s'appelle pas mixité sociale, on appelle ça, je sais pas comment, mais on appelle pas ça du tout mixité sociale, hein, c'est marrant. C'est étrange. Oui.
Et donc, dans ces quartiers, il y a aussi des luttes, parfois, et ce qui est intéressant peut-être à voir aujourd'hui par rapport aux établissements scolaires dans les quartiers, c'est de voir les luttes qui sont construites un peu autour des établissements. Je pensais pas mal à RESF, dans le quartier des Amandiers. Je sais que vous avez fait des manifs de quartier pour la régularisation d'un môme. T'étais déjà là, Raj?
Alors moi je suis arrivé il y a deux ans, donc
c'était l'an dernier.
Eric, alors l'an dernier. Alors là-dessus, moi j'ai pas suivi trop. Eric m'en a parlé cette année.
C'était
un élève du collège.
C'était un élève de Douaneau, dont les parents étaient menacés d'une OQTF.
D'accord. Ils sont venus chercher l'enfant au collège.
Non, ils sont pas venus le chercher. Juste, il avait reçu l'obligation de quitter le territoire. Mm-hmm. Et les profs s'étaient mis en grève. Ils avaient fait une manif dans le quartier. Et apparemment, la manif, elle avait grossi dans le quartier. Nous, moi, je suis parent d'élèves à la Goutte d'Or et on avait fait des manifs comme ça. On part de l'école Marcadet, où on a un papa en centre de rétention. Donc, à la sortie de l'école, tout le monde qui fait un petit rassemblement, 3-4 militants d'RESF qui sont là, qui expliquent un peu ce qu'il faut faire. Le papa, on allait le voir au centre de rétention, on organisait les trucs juridiques, mais les gens de l'école disaient, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis je dis, je sais pas. Et puis les parents avec les poussettes et tout, hein, il y avait des mamans avec 4 mômes, des poussettes et tout, et on a fait une manif en fait, on a pris la rue Ordener jusqu'à la mairie, on a bloqué, on a tout pourri le quartier, on s'est mis devant le commissariat, un truc qu'on ferait pas dans une manif de militants parce qu'on se ferait défoncer tout de suite, sauf que là il y avait des mômes partout en fait. Il y avait on a bloqué tout le quartier et tout, et puis après ils l'ont sorti de rétention le mec, enfin, et à Douaneau il s'était passé la même chose en fait, sauf que c'était encore plus impressionnant parce que c'était un collège. Nous, c'était une maternelle qui manifeste. On avait fini à 150.
Mais c'était pas l'année dernière.
C'était il y a deux ans. Je vieillis trop vite.
Deux ans, alors.
Parce que moi, je suis arrivé.
Vous n'y étiez pas encore.
Mais après, on est arrivé, on nous a transmis, si je puis dire, la mémoire des luttes de RESF. Parce que, oui, apparemment, le réseau RESF, il était très actif sur le collège Robert Delot, même ils étaient connectés par rapport aux autres établissements du quartier. Mais c'est vrai que le moment, c'est sûrement un hasard, ça a coïncidé le moment dans lequel on est arrivé avec... il y avait moins de problèmes d'enfants sans papier. Une chose qui, à mon avis, est pas tout à fait vraie dans le 18e, où là, il y a beaucoup plus de problèmes de sans papier dans les quartiers, comme la Goutte d'Or ou...
Ouais, mais on en a moins depuis qu'on a tout bloqué le quartier aussi, enfin. Il y a un moment, ils arrêtaient les parents, c'était un par mois, et là, ils les arrêtent plus vraiment. Enfin, ça arrive encore parce que il y en a qui font du zèle, mais je crois que globalement, on a réussi quelque chose avec ça. Et des manifs comme il y a eu aux Amandiers ou comme on a fait dans la Goutte d'Or, ça a dû jouer aussi un peu.
On a Eric Straub, qui est prof de techno et qui nous aide à mettre en place à continuer à mettre en place le RESF.
Mm-hmm. Oui, il est assez actif dans le réseau. Voilà. Et sinon, vous avez eu des luttes sur les retraites. Alors là, vous y étiez, ça je le sais, parce que vous m'avez raconté. Ça, c'est sûr. Alors c'est aussi assez intéressant la façon dont les élèves se sont impliqués dans le mouvement. C'est des mômes, c'est des collèges.
Il y a plusieurs, je crois, perceptions du truc. Donc, il y avait Déjà, en tant qu'adulte à l'intérieur du collège, sur ceux, entre ceux qui étaient mobilisés et ceux qui n'étaient pas mobilisés, forcément, le regard de chacun change quant à la même scène que l'on voit. Donc, quand il y avait des mômes qui prenaient des poubelles pour bloquer, qui s'activaient un peu, qui pour certains foutaient la merde et d'autres réagissaient. Pour moi, ils avaient une réaction spontanée à quelque chose dont ils pouvaient peut-être pas mettre des mots clairs dessus, mais ils comprenaient qu'il y avait quelque chose d'injuste et qui allait pas. Alors va savoir comment. Est-ce que c'est parce qu'ils ont entendu des discussions? Est-ce que c'est parce qu'ils ont vu le journal? Est-ce que c'est parce que dans la famille on en a parlé ou à travers certains réseaux du quartier ils l'ont entendu? Mais moi, je pense que ces mômes-là, notamment certains troisièmes, ils comprenaient qu'il y avait quelque chose qui est...
L'injustice, ils la vivent au quotidien.
Voilà. Ouais. Ils n'étaient peut-être pas capables, comme des adultes, de mettre des mots dessus, d'argumenter, comme pourraient le faire certains adultes. Mais ils comprenaient qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ils voyaient qu'il y avait des adultes profs et, ce qui est le cas à Robert Doisneau, une équipe de surveillants qui se mobilise collectivement et qui est assez... réactive, quoi, qui se met en grève. Et donc, eux, ils ont vu ça. Un mélange de tout ça fait qu'ils ont ressenti le besoin de se bouger et ils ont, à leur façon, et comme ils l'entendaient eux, mis des poubelles devant le collège, foutu le feu à certaines poubelles, réagi. Et donc, la perception de certains personnels du collège qui n'étaient pas en grève, c'est n'importe quoi. Et moi, ma perception, c'était qu'ils avaient toute la légitimité pour réagir de cette façon et que c'était pas quelque chose de... C'était pas n'importe quoi, quoi. C'était pas des gamins qui font des conneries, quoi.
Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, ils se sont attaqués au collège à cette occasion-là.
Bah, attaqués, après, c'est un grand mot, mais en tout cas, le lieu de cette réaction, elle avait lieu devant le collège, quoi. Mmh. C'est pas, ils ont été... parce que s'ils avaient été de rue plus loin à réagir d'une façon... Alors, elle dit, c'est un prétexte, on leur a tout de suite collé cet argument facile de dire, ils vont de rue pour loin pour foutre la merde. Là, il y avait un enjeu avec des adultes mobilisés et ça se passait dans un cadre qui est le collège et sur le trottoir du collège.
C'est quasi syndical, je sais pas, moi, c'est le travail, c'est là qu'on
c'est là que ça se passe. Eux, ils sont pas en cours pour X raisons, parce que les profs sont en grève. Il y a un enjeu qui est les retraites, qui est un enjeu médiatique. Et va savoir comment chacun le vit dans sa famille, comment ils le perçoivent. Et il y a une réaction qui est celle-là. Et pour moi, c'est pas une réaction de petits cons qui ont envie de s'amuser pour foutre la merde. C'est une réaction légitime parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose. Et ils réagissent comme ça.
Et non, pour l'anecdote,
C'est toujours plus rassurant pour les adultes de se dire ça, quoi. C'est toujours la même chose, là. C'est tellement plus simple. Moi, j'ai un gamin de 15 ans. C'est vrai que quand tu le vois, tu dis, ouais, c'est pour glander. En fait, ça, c'est notre regard toujours qui était là pour donner un peu des leçons, mais si tu veux profondément, effectivement, ils te rendent compte qu'il y a des trucs qui déconnent, et ben pourquoi pas s'exprimer dans cette occasion-là, quoi. Je veux dire, on leur apprend à être des moutons, concrètement. Pourquoi là-dessus, tout d'un coup, quand ils vont à une manif avec tout le monde, il faudrait qu'on leur dise, c'est pas bien, faut aller en cours, tu vois. Donc faut arrêter là. Je pense que là.
Il y en a qui avaient fait des panneaux, qui avaient écrit sur des cartons des slogans. Je me rappelle plus précisément lesquels, mais ils ont fait, c'est une reproduction d'un truc, quoi. Un carton, un slogan, une poubelle que l'on bouge, l'idée de blocage. Donc voilà, je veux dire, moi, j'ai déjà fait des conneries dans ma vie. Quand je voulais faire une connerie, j'allais pas mettre un slogan sur un carton, tu vois. J'allais faire des... Enfin, tu vois. Donc, voilà.
Non, c'était vraiment une réaction politique.
Non, une réaction.
Et la réaction de l'institution au collège a été assez brutale. Jusqu'à ce que...
Bah, il y a eu, donc, qu'est-ce qui... Raj, ils ont appelé les flics.
Ah ouais, ouais.
Les flics ont débarqué. Donc, à ce moment-là, les adultes sont sortis dehors. Mm-hmm. Notre souci principal, c'était que les flics, ils...
N'embarquent pas les gamins.
Ils connent pas un mot, mais ils n'embarquent pas un gamin, quoi. Mm-hmm. Donc, après, chacun a son vécu. Mais moi, l'expérience personnelle fait que quand je vois un flic et un môme à côté, j'ai plutôt tendance à avoir peur...
Pour le môme,
plutôt que pour le flic. Et donc la réaction, elle a été que voilà, enfin un peu je pense que les adultes, ils ont pas été en donneur de leçons, en moralisateur, c'est juste faire gaffe que les mômes ils se fassent pas embarquer, faire gaffe qu'il se passe pas un drame, quoi. Quand il y a des flics dans le coin, il peut se passer souvent un drame.
avec la, je crois que la chef était en train de filmer les élèves derrière une fenêtre.
Ouais, je crois que c'est la situation. Enfin, des photos ont été prises.
Des photos, des trucs un peu pas.
De la bonne provocation.
C'est-à-dire que c'est le personnel du lycée qui prenait.
Il y avait une catégorie de personnel du lycée qui n'était pas en grève et qui.
Oui, mais donc qui prenait des photos.
Qui a pris des photos. Ouais.
Mais donc c'était un service commandé de la part du commissariat, ça.
C'était plutôt la réaction de gens qui se mettent pas en grève et qui eux estiment réagir comme ça parce que c'est pour eux, ça leur semble logique quoi.
Parce qu'il va falloir sévir.
Parce que c'est pas normal quoi que c'est pas normal quoi. Mais de toute façon,
ce qui est pas normal, c'est de filmer à leur insu des gens et ça.
Des mineurs.
Je veux dire la réaction quand les mômes réagissent collectivement. Mais que c'est dans un cadre, dans le cadre précis qu'on leur a imposé, c'est-à-dire les enfants, vous avez le droit de réagir collectivement. Allez, on vote ou on fait une sorte d'assemblée où on s'amuse à faire la démocratie et tout. Là, on tolère une expression collective des mômes de 14 ou 15 ans. Ouais. Quand les mômes, ils décident eux-mêmes en dehors des schémas qu'on leur a imposé ou du contexte qu'on leur a imposé de dire, on a une expression collective de quelque chose. Et ben là, c'est des petits cons, là, ils font des conneries et tout. Mais j'ai envie de dire, ça marche pareil pour les adultes. Quand ils respectent, entre guillemets, la loi, les adultes ont le droit de s'exprimer collectivement. S'ils décident de dire, on s'exprime collectivement comme des travailleurs ou comme, et on emmerde tout le monde et on...
Sans attendre qu'on nous le demande.
Et ben là, on va leur dire que c'est des radicaux,
des gauchistes.
Voilà.
Ouais, et juste pour finir peut-être sur le quartier, on a parlé en introduction de la lutte autour de la mine Dieng. Alors ça dépasse un peu le cadre du collège là à ce niveau-là, mais c'est quand même une famille du quartier qui était bien implantée.
C'est une famille qui est dans le quartier. Ouais. Il y a des gens de la famille qui sont scolarisés dans le collège. Donc
on rappelle, hein, il s'est fait assassiner dans un fourgon de police, après matraquage en règle.
Voilà. Bonnet du forme.
Et donc ça arrive qu'il y ait des t-shirts à la mémoire de la Lamine Dieng qui soient portés par des enfants du collège. Donc voilà,
c'est quelque chose qui a marqué le quartier quand même. Ouais.
Moi j'y étais pas encore dans le quartier en tant que travailleur, mais je connaissais un peu le quartier parce que j'y passais de temps en temps. Et je me rappelle que il y a 4 ans, c'est quelque chose qui avait fait du bruit. Et en tant que nous militants et concernés par tout ce qui ces thématiques des bavures et etc., on avait été un peu interpellés par tout ça, quoi, choqués, et on avait réagi notamment dans des rassemblements et tout. Et c'est vrai que s'y retrouver en tant que travailleur dans le quartier, et on sent que la lutte autour de cette affaire, elle est présente, quoi.
On va peut-être s'écouter une petite musique, on parlera un petit peu du travail dans les quartiers. Donc on était en train de parler du quartier des Amandiers et des quartiers, des établissements. Et juste, ce serait pas mal aussi qu'on parle un peu de votre métier, entre autres d'assistant d'éducation ou d'animateur. Là donc Emiliano et Raj, vous êtes assistant d'éducation, c'est-à-dire pion, hein, ce qui s'appelait MISE, maître d'internat surveillant d'externat, mais qui est plus connu sous le nom de pion, au collège Douaneau dans le quartier des Amandiers. Et Emiliano, t'as aussi été animateur à Aulnay. Raj, t'es aussi dans les coups de pouce, donc animateur et prof pour la ville de Paris.
Prof dans un lycée.
Voilà. Comment vous gérez la pédagogie, la relation avec les élèves en tant que travailleur précaire et assez proche des élèves? Finalement, c'est peut-être vous qui les connaissez le mieux.
Tu commences.
On commence, vas-y, Raj.
Ben moi, il s'est révélé que j'avais pas fait ce genre de, j'avais jamais eu cette formation et que je me retrouve assez bon pédagogue. Et peut-être aussi le point commun qu'on a nous, c'est qu'on est aussi issus de familles qui sont pas françaises. Mes parents sont réfugiés politiques, comme ceux d'Emiliano. On a peut-être un point commun avec ces gamins. Et donc du coup, c'est peut-être un peu plus facile. On a aussi grandi en TESS. Donc on connaît le langage, on sait ce que c'est, bon, et les rapports de force qu'il peut y avoir, même au début, si c'est des rapports de force, à la longue, on s'aperçoit qu'en fait c'est nécessaire, parce que c'est comme ça qu'on leur met leurs limites. Et donc Pour ma part, ouais, ça va quoi. Vu la difficulté et vu l'incapacité de certains, même de nos collègues, des fois face à certains événements ou quoi, on s'en sort bien, nous, je trouve. C'est dur. Hein,
les... Alors on s'en sort bien, c'est-à-dire que vous devez gérer les permanences, les exclus,
en fait,
les... Tout... En fait, vous êtes. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce que dans l'éducation, ce moment, on gère la merde.
Ouais, on gère
que personne
la merde,
veut.
On est les. Ouais. On est les, je sais pas,
parias de l'éducation nationale.
Nous, on est en première. On sera bien précaire en tant qu'à faire.
Comme il faut.
Voilà, non mais c'est un taf qui est un peu particulier. Et puis, il faut gérer plein de contradictions parce que, si tu veux, tu te retrouves dans un boulot où déjà le supporter la journée, c'est difficile compte tenu des conditions de travail et compte tenu de, enfin, l'oppression en tant que travailleur qu'on subit, qu'elle soit morale ou physique, elle est dure à gérer. À ça, t'ajoutes le quartier dans lequel tu bosses, les difficultés qui s'y rapportent. Donc, tu te retrouves à gérer ce que t'es toi par rapport à ton taf et comment tu résistes au boulot pour pas péter un plomb et des fois envoyer tout balader. Tu te retrouves à gérer des trucs qui sont plus de l'affect, c'est-à-dire la relation avec les mômes. Et donc, tout ça, c'est difficile parce que des fois, t'es saoulé, donc tu vas faire preuve de moins de patience, donc tu vas être dans un truc où t'exiges de la discipline, alors que tu sais qu'au fond, ça va à l'encontre de ce que t'es toi et des méthodes que t'aimerais mettre en place pour gérer les relations avec les mômes. Mais ça, c'est relou parce que comme t'es fatigué, comme tu peux pas tout gérer et que t'es toi-même déjà exploité, et ben, tu te retrouves dans une posture que t'as pas envie, c'est pas celle que t'as choisie. Et tu dois gérer ça, c'est un peu, t'es dans des trucs constamment, dans des contradictions que tu dois gérer, dans des questionnements. Et c'est ça surtout qui est très difficile à gérer, parce que comme il dit Raj, nous dans notre cas, nous on vient de, et ça peut être valable aussi pour des gens qui sont pas issus de quartier comme nous, mais nous on vient de quartier, on vient de cité, on est des fils d'immigrés, donc on sait ce que ces mômes y vivent, on l'a peut-être vécu d'une autre façon à une autre époque, les choses changent. Mais si tu veux, pour le caricaturer, nous on sait parler à ces mômes-là beaucoup plus que des gens qui ont certains diplômes et qui se disent spécialistes de la vie scolaire ou de la pédagogie ou je ne sais quoi. Et juste ce qui est très difficile à gérer, en tout cas pour ma part, c'est les contradictions qui naissent du fait que je fais ce boulot dans un collège.
Ouais, parce qu'il faut rappeler la structure des collèges dont, qui parlait tout à l'heure des barrières de 2 mètres de haut. C'est toi, Jérôme, qui parlait des barrières de 2 mètres de haut.
Bah ouais.
2 mètres, aujourd'hui, c'est le minimum, je crois, de la clôture d'un collège au niveau de la hauteur. On a pas mal de barrières à plus de 3 mètres de hauteur maintenant dans les collèges. On a même des barrières intégrales avec des collèges complètement fermés jusque... par des plexiglas ou des choses comme ça. Enfin, on a une grille qui est gérée de loin par un interphone ou que les surveillants, donc les assistants d'éducation, viennent ouvrir avec entrée sur présentation de pièces d'identité. Enfin, c'est une structure carcérale, quoi.
Okay, totalement. Et le truc, c'est que quand on vendait un peu ce boulot à une époque, c'était genre, en gros, t'es pion, tu fais tes études, alors t'inquiète pas, t'es dans la salle d'études avec les enfants qui sont en train de travailler, donc du coup, toi, t'es au bureau, du coup, tu peux toi-même étudier et faire ta formation, et c'est cool, tu verras, et en même temps, t'apprends avec les mots parce que tu comprends, tu noues des relations, parce que tu sais tout ça, et le fait est que ça marche peut-être dans certains collèges ou lycées, mais là où on bosse, nous, c'est pas du tout le cas. C'est pas un endroit où tu vas et que tu te poses ton cul en perme pendant que les mômes étudient et que tu fais faire tes cours et réviser tes trucs. C'est pas ça. C'est qu'on se retrouve à faire à subir des trucs et à devoir faire des tâches pour lesquelles normalement déjà t'as pas envie et que en vrai c'est pas ça le boulot, quoi. Donc quand tu dis il y a les grilles, quand tu dis les trucs, parfois tu te retrouves à faire dans une position où tu te sens comme une sorte de vigile, tu vois.
Ouais.
Et quand toi t'es un militant et que t'as pris le temps de raisonner tout un tas de trucs et de réfléchir à des trucs et que tu te dis et que tu comprends que le collège ça représente l'institution et que l'institution d'une certaine façon ça fabrique les futurs on est là en fait c'est un outil du contrôle social de choix, tu comprends tout ça et et tu te dis putain c'est chaud, tu vois, tu y a des moments où tu te dis c'est chaud. Et donc t'as les bon après t'as les super rebelles de je sais pas quoi qui diront comme tu penses dans un collège t'es un vendu. Et puis t'as des trucs plus nuancés qui disent bon bah tu sais que l'institution elle est pourrie, tu sais que le collège c'est un endroit où il y a des formes de domination, et toi t'es là et tu fais ton boulot et tu dis bah qu'est-ce que tu fais toi pour déjà lutter contre ces formes de domination, faire ton taf de militant, défendre ton statut de travailleur, ta solidarité avec les collègues, l'entraide, tout un tas de trucs. C'est, et je crois que beaucoup plus que dans beaucoup plus d'autres boulots, beaucoup plus d'autres endroits, toutes ces contradictions et tous ces rapports, ils sont exacerbés dans un collège ou dans un lycée ou dans un endroit où il y a des enfants. Parce qu'on joue vachement sur le truc sentimental. Ah, mais tu sais, au moins, accepte cette condition de merde de travailleur parce que tu sais bien, c'est des enfants, donc au moins, tu fais ça pour eux. Et petit à petit, on te nique, tu vois. Et en même temps, t'es dans, tu vois, c'est compliqué à gérer. C'est surtout ça qui est difficile à gérer moralement, quoi.
C'est du beau chantage.
Parce que dans le cadre...
Chantage, ouais.
Dans le cadre de notre statut, on pourrait très bien éviter de faire la moitié des choses qu'on fait. Que ce soit des rapports de... pseudo-psychologue, du tutorat.
Tu te retrouves à faire du social. T'es grand frère, t'es assistante sociale, t'es traducteur, t'es tout un tas de trucs. Et tu le fais parce que bon, déjà, t'as.
Ouais, il joue avec les sentiments. Voilà. Enfin, après, c'est le rapport affectif que toi t'as, mais bien sûr, on s'en sert. C'est très bien qu'on met des humains face à ça.
Et ce qui est intéressant, justement, donc, par rapport aux conditions de travail pures que tu évoques, là, Emiliano, je crois que justement, vous avez au collège Doineau un truc qui est pas très fréquent ailleurs, c'est la solidarité avec une équipe de profs qui est pas complètement hermétique à vos revendications.
Non,
et,
c'est clair.
C'est là qu'on voit quand même que une équipe de travailleurs soudés, ils peuvent supporter des conditions de travail plus difficiles
parce qu'ils
vont lutter, voilà, aussi contre ça, et que la lutte crée des liens.
Tu résistes et tu sais que dans ce cas-là, t'es pas tout seul. Et bon, même quand il y a une réponse collective, c'est pas facile non plus. Mais là, c'est vrai qu'il y a une certaine solidarité qui s'exerce entre une partie des profs pour ce qui est de la vie scolaire. Et des assistants d'éducation, il y a une forte solidarité qui existe. Du coup, bah comme tu dis, tu supportes des trucs mieux, tu résistes mieux, et puis tu sais que t'as la possibilité à un moment aussi de dire stop, ça suffit, et que tu vas pouvoir compter sur tes collègues de boulot pour appuyer ce stop, quoi.
Mais
et dire là, on arrête de nous prendre pour des cons, on arrête ceci, on arrête cela. Après, toute proportion gardée, on n'est pas non plus, on va pas. On va pas gérer le collège dans l'autogestion et l'autonomie et tout le monde au même niveau. Faut pas rêver non plus. Il y a la direction. En plus c'est marrant comment c'est structuré Doineau, c'est que c'est par étage. T'as les profs au deuxième, la direction au premier et la vie scolaire au rez-de-chaussée. Tu vois, c'est comme image. C'est beau. Tu vois, c'est.
Ils auraient pu vous mettre au sous-sol. Hein.
Ils auraient pu nous mettre au sous-sol.
L'année prochaine,
tu vois.
L'année prochaine.
Si on regarde les contrats, la paye et tout, je pense qu'on est dans le garage. Ouais.
Et donc tout ça ressemble pas mal finalement à ce qui nous avait donné l'idée de faire l'émission. C'est Jérôme qui m'avait suggéré l'idée. C'est ce qui s'est passé à Grenoble très récemment. Il s'est passé un paquet de choses qui sont toutes un petit peu liées. Je pense donc violence policière dans un quartier, émeute dans un quartier, discours ultra réactionnaire dans un quartier, fermeture d'un établissement dans le quartier, etc. Ouais. Et ce quartier, c'est le quartier de la Villeneuve dont t'as commencé à parler tout à l'heure. Ce quartier de la Villeneuve, donc c'est les quartiers sud de la ville de Grenoble qui sont un peu stigmatisés comme étant les quartiers. C'est pas connu autant que le quartier nord de Marseille.
Justement, j'ai un prof qui j'ai rencontré qui dit l'inverse, justement, qui dit qu'on nous ça fait des années qu'on prévient, justement, qu'on essaie de prévenir en disant c'est la même structure socio-économique, c'est la même périphérie, un petit peu fausse périphérie, tu vois. Les quartiers sud de Grenoble, c'est plus intégré, je dirais, à la ville que ceux de Marseille où il y a quand même plus de distance déjà, mais c'est vrai qu'au niveau de ce qui s'est passé cet été, donc le lycée Mounier est en périphérie du centre-ville, donc il est pas dans le quartier de la Villeneuve, tu vois, c'est le lycée de secteur entre guillemets parce qu'il y a plus de secteur, donc c'est le lycée le plus proche des gars de la Villeneuve, c'est le seul qui est général et technologique, les autres c'est du technique, du lycée pro. Mais c'est vrai que il y a quand même des similitudes quelque part, et tous ceux qui connaissent bien la ville, et notamment les enseignants, hein, des collèges du quartier sud et du lycée Mounier qui est le plus proche, ils savent très bien, enfin tout ce qui s'est passé cet été, c'était couru d'avance que ça pèterait comme ça, quoi.
Est-ce que tu peux refaire une petite frise chronologique?
Alors, une petite frise chronologique. Au départ, c'est un fait divers, hein. C'est la Sarkozy est tout à fait habituée à tout ça. Elle nous a, de même avant qu'il soit élu président, c'est la recette type, hein. Donc, un fait divers. Là, en l'occurrence, c'était un braquage dans un casino. Faut voir que, évidemment, à Grenoble, il y a énormément de petites villes. C'est une cuvette, hein, donc tout autour, c'est la montagne. Et donc, la moindre petite ville, hein, un peu bourge, qui se trouve sur les hauteurs, évidemment, hein, pour dominer un petit peu tout ça. Et donc, il y a énormément de petits reclus comme ça, néo-bourgeois. Et donc, à Euriage, il y a un casino. Donc, moi, par exemple, tu vois, j'avais complètement zappé qu'ils avaient obtenu l'autorisation d'avoir un casino dans la région de Grenoble. D'habitude, c'est toujours autour des trucs thermaux, machin, Aix-les-Bains et compagnie. Donc là, ils ont un casino et il y a un braquage. Deux gamins, je dis des gamins parce qu'ils avaient peut-être moins de 20 ans. Donc, et apparemment, bon, je vais pas refaire toute la série, mais il se trouve qu'ils étaient attendus, apparemment. Donc, les keufs savaient qu'ils allaient s'attaquer à ce truc-là. Donc, ils les coincent, mais ils les coincent pas sur place, mais ils les coursent. Ils savent très bien qu'ils vont aller à la Villeneuve. Ils savent très bien qu'ils vont revenir sur place parce que c'est chez eux, quoi. C'est là qu'il y a leur plan, c'est là qu'ils peuvent facilement se répandre dans la ville. Donc ils les suivent et c'est là-bas qu'intervient sur place. Et là, tous les témoignages qui ont été cités, peut-être pas dans le Dauphiné Libéré qui est vraiment le Daubé local, c'est pour le coup, c'est vraiment un journal de raclure. Il se trouve que là, on peut pas non plus, parce que moi j'étais pas sur place, hein, je dis pas que j'ai vu ce qui s'est passé, mais en revanche, les témoignages recoupés de ce jour-là, c'était le 18 juillet, donc c'était en plein été, c'est que le gamin, donc un des deux gamins, hein, donc il y en a un qui s'est réussi à s'enfuir, un des deux gamins, on lui tire dessus, et il a deux balles sur lui, donc pied, jambe, tu vois, ou genre pied, en tout cas ça l'immobilise, donc le gamin, il est au sol. Il n'est pas mort, il est blessé, mais quand t'as deux pruneaux dans la jambe ou dans le panard, tu bouges pas, quoi. Tu peux pas bouger, donc tu bouges pas. Et la troisième balle, c'est dans la nuque. Donc, allez voir un petit peu la balistique, hein. Je suis pas non plus policier scientifique, mais là, pour le coup, beaucoup considèrent que c'était une mise à mort. Une mise à mort en bas de la barre, quoi. En bas de l'immeuble. En bas de la barre de l'Arlequin dont je parlais tout à l'heure. Et là, évidemment...
C'est un signal, quoi.
C'est un signal, surtout que pendant plusieurs heures, le corps va rester à terre, sans couverture, sans drap. Donc toutes les familles qui descendaient, alors les travailleurs sociaux sur place m'ont raconté les mamas qui descendaient avec les couvertures, tu vois, les serviettes, n'importe quoi qui me couvrait le corps, quoi. Non, il s'agissait dans le sang. Et les gars de la BAC ont pas voulu couvrir le corps et même qu'ils se sont permis. Alors là, encore une fois, je n'étais pas présent. C'est des témoignages que j'ai pu lire et qui ont été recoupés. On se sont servis en fait de cet événement-là pour narguer les gamins, qui évidemment toute la journée ils n'arrivent pas à les coincer parce que voilà ils jouent un petit peu au chat et souris. Et donc là c'était pour eux, mais c'était une aubaine, quoi. Donc un gars on l'abat chez lui devant sa mère, devant ses cousins, devant ses potes, le corps, humiliation supplémentaire, on le laisse dans le sang pendant 3 heures, on fait rien, on couvre pas le corps. Et évidemment après ça a été Miami Vice pendant 3 jours. T'avais les hélicos, hein, qui braquaient les espèces d'énormes projecteurs, mais comme à Miami, quoi. Les projecteurs énormes dans tous les, chaque personne qui a un appartement à l'Arlequin a dû au moins une fois dans les 3 nuits, au moins une fois avoir ça dans son salon, quoi. Et donc évidemment émeute, il y a eu des menaces, évidemment les flics après se sont plaints qu'on leur tirait dessus, quoi, tu vois. Donc après ce genre de provocation, évidemment tu peux dire oui mais il y a des armes à la Villeneuve, on s'est fait tirer dessus et tout ça. Donc juste après, effectivement, donc Hortefeux qui était encore en poste à l'époque, donc se déplace immédiatement, c'est intolérable et compagnie. Et donc ils organisent avec le grand Sarkozy un déplacement à Grenoble fin juillet. Donc le 30, il prononce son fameux discours, évidemment enflammé comme d'habitude, qui reprend donc ces événements-là et donc annonce une série de mesures à la con qu'on connaît très bien. Et mais c'est vrai que Voilà, la recette, tout le monde la connaît. Hein. C'est vrai que un peu avant, il y avait Saint-Aignan avec le jeune gitan qui s'est fait abattre également. Donc tout ça, tu vois, en plein été. Donc évidemment, bon, l'actualité était complètement morte. Il n'y avait pas d'affaires DSK à donner à manger aux journaux. Donc voilà, donc tout le monde s'en est jeté à cœur joie. Et c'est vrai que là où ça peut faire un lien avec le lycée Mounier, donc dont je vais parler. C'est qu'effectivement, le lycée Mounier, c'est donc, comme je disais tout à l'heure, le seul lycée général des quartiers sud, quoi. Et c'est un petit lycée, genre 800, 900 élèves, qui a été aussi, qui a eu 10 ans d'expérimentation. Donc moi, j'y étais juste à la fin. J'étais en 82, 83. J'ai commencé la seconde. Et donc, c'est un lycée qui a une histoire un peu pédagogique, tu vois, assez costaud, quoi. Et puis, c'est vrai que, mine de rien, quand tu vois les résultats, enfin, le résultat du bac, hein, on sait très bien que c'est pas non plus la martingale. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont hyper jaloux, parce qu'à Mounier, c'est le deuxième, quoi. C'est le deuxième derrière le lycée Stendhal, du centre-ville. Et donc, il dépasse Champollion, c'est le Henri IV de Grenoble, où il y a tous les... moi, quand même, quand j'y étais, c'était le lycée où tous les parents qui avaient un enfant qui réussissait un petit peu voulaient absolument mettre leur gamin, donc dérogation, machin, copinage, tout ça. Donc Champollion, il est même derrière Mounier, et puis il y a aussi d'autres énormes lycées, en ce moment c'est la grande mode hein, de construire des lycées énormes à 1500 élèves et tout. Et donc il y a le fameux lycée Europol qui est donc le quartier d'affaires, mais également le quartier Minatec, parce que Grenoble c'est le temple des nanotechnologies, donc l'espèce de laboratoire du CEA, commissariat à l'énergie atomique, hein, qui donc va fabriquer ses futurs produits technologiques. Et donc le lycée Europol, qui a été construit justement pour attirer les classes internationales, donc tous les enfants des expats qui bossent dans ces grands labos pour cadre sup. Et en fait, c'est une catastrophe, quoi. Europol, c'est un énorme truc. Il y a, paraît-il, le plus fort taux de suicide, enfin le taux de tentative de suicide chez les élèves là-bas, parce qu'il y a une espèce de course à l'échalote. Les gamins, ils sont poussés, donc imagine le mec qui vient d'Irlande, d'Angleterre, des États-Unis, et donc il doit effectivement faire comme papa maman. Donc voilà, donc c'est Mounier, c'est un petit lycée, voilà, qui est en périphérie et qui marche super bien, qui est construit en 63, et c'est donc le lycée de secteur de la Villeneuve. Mais c'est également donc il y a des classes d'apprentissage, il y a Greta qui est sur place et qui fait donc des BTS pour créer une bonne synergie à post-bac. Tu as pas mal de troisième langue, énormément de troisième langue, turc, même chinois, arabe, classique, latin, même latin, grec. T'as une option musique qui est la meilleure de la ville, parce que c'est directement lié au conservatoire, tu vois. Donc il y a un collège qui est pas loin, Charles Munch, qui lui aussi est très musical. Hop, et normalement, tous les élèves de Munch, hop, ils sont envoyés à Mounier. Et Mounier garde sa spécificité musicale. Donc ça aussi, ça attire les petits bourges du centre-ville, tu vois, genre où tu fais du violon, bah tu vas à la Mounier. Et donc, avec finalement le Sud et la connexion naturelle avec la Villeneuve, ça a toujours été un lycée hyper riche, quoi. Mm-hmm. Et c'est vrai que moi, je me souviens, enfin, j'ai du mal maintenant, à 45 ans, à te dire qu'est-ce que je retiens exactement de ce lycée Mounier. Mais c'est vrai qu'il y avait une osmose super intéressante. Moi, mes copains, ils habitaient plutôt dans le Sud, mais en périphérie, côté Bourges. Mais j'habitais la Villeneuve, si tu veux, et j'avais mes copains de la Villeneuve, quoi, qui étaient avec moi. Donc j'ai pu découvrir d'autres personnes, d'autres milieux, tu vois. Il y avait ceux avec qui je jouais au foot en bas de chez moi, et il y avait ceux avec qui je pouvais partir en week-end quand j'étais plus vieux, quoi, tu vois. Et donc voilà. Et Villeneuve, c'est vrai que la décision est tombée en septembre. Donc Jean-Jacques Carane, président de la région Rhône-Alpes, décide 27 septembre.
DSKiste.
Voilà. Non, alors j'ai appris que non, c'est pas lui. J'ai appris que lui était plutôt royaliste. Et c'est Desto, le maire de Grenoble, qui est plutôt DSK. Et donc Carane, le 27 septembre, bon, il y a eu des petites rumeurs juste avant. Donc le lycée commençait un petit peu à bouger. Tu sentais que les élèves, les profs commençaient déjà à exploser. Ça fait depuis 98 qu'ils sont en plan de rénovation, restructuration, avec déménager une partie, laisser les cours, machin. Donc, tu vois. Et là, ils annoncent qu'il faut fermer parce que le lycée, il est trop destroy, il va s'écrouler, tu vois. C'est la technique classique, hein. Si tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage, hein. Ben, voilà, tu dis qu'il va s'écrouler. Et donc, petit à petit, ben, voilà, il y a un collectif qui se crée, donc, les parents d'élèves motivés, plein d'élèves aussi, évidemment, qui notamment, Anthony, quand on aura juste à la fin du petit sujet, qui lui est en terminale et lui il aurait bien aimé faire son BTS à Mounier. Putain, c'est génial quoi, tu sors du terminale, hop, tu fais ton BTS dans ton bahut. En plus tu trouves ça bien, voilà. tu restes quoi, c'est cool. Et donc en fait, il se trouve que petit à petit, donc ils ont fait un collectif, ils ont fait toutes les manifs évidemment avec les retraites, ça a bien dégagé, donc ils sont un petit peu incrustés dans toutes les manifs qu'il y avait. En janvier, il y avait une espèce de d'état généraux à la con là, entre organisé par Libération, Marianne, tu sais, une espèce de truc un peu gauche-droite, on se réunit, on va changer la société, tu vois. Donc la maison de la culture, et donc ils ont perturbé ce truc-là, et à chaque petite occasion, à la mairie, au rectorat, hop, on fout le bordel, on sort les banderoles, et puis en plus, comme évidemment, en l'occurrence, classe musicale, il y a plein de gars qui avaient les congas, les machins, les guitares, les percus, et c'est bon qu'à chaque fois, ça faisait une petite animation, quoi. Et donc, petit à petit, ben, ils ont eu plein de concessions. Et finalement, on s'est rendu compte que la sécurité, en septembre, qui était craignos au point que ça allait s'écrouler, ben, finalement, petit à petit, on s'est rendu compte que, ben, c'était pas si craignos que ça, qu'on pouvait garder une activité, qu'on pouvait maintenir des cours. Et là, ils ont quand même gagné. Au départ, c'était, allez, on vous laisse que 50% d'effectifs. Là, maintenant, ils en enlèvent que 30, tu vois. Donc, là, la région vient d'éditer une espèce de plaquette toute jolie, en couleur et tout, en disant, grâce à la région, nous maintenons 550 élèves, donc quasiment les deux tiers. Et donc, petit à petit, voilà. Donc, à la rentrée en septembre 2011, ils ont conservé 3 secondes au lieu de 7 aujourd'hui. Donc, quand même, c'est bien, bien se lâcher. Les BTS, ça gicle. Il y a pas mal d'options qui vont risquer de, je pense qu'ils vont gicler, en fonction des effectifs. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas assez d'élèves pour qu'un prof soit recruté, donc, le prof va gicler ailleurs. Et donc, voilà. En ce moment, ils sont en train ils ont fait 4 journées portes ouvertes, hein. Parce que généralement les lycées en font 2 ou 3, et justement pour recruter, parce qu'il y a évidemment le rectorat et la région, ils jouent pas le jeu, c'est-à-dire qu'en fait eux, ils balancent pas les infos, ils disent pas que Mounier garde une activité, si tu veux, ils font un petit peu, tu vois, parce que eux, leur intérêt c'est qu'évidemment qu'il y ait de moins en moins d'activités pour justifier qu'il fallait le fermer, tu vois. Donc c'est un peu la course pour recruter les élèves de troisième, surtout qu'en face il y a un lycée privé tout neuf, rénové par la région. Donc je sais pas si on peut passer le petit sujet de 10 minutes là,
ouais,
parce
un
que
petit
on
reportage. Ouais.
Parce que on va justement partir à la Villeneuve, parce que Mounier est riche de toutes ces activités là, et notamment ils ont hébergé le CLEPT, qui est un collège lycée élitaire pour tous, et qui est donc un collège pour décrocheurs, qui accueille une centaine d'élèves de 15 à 22 ans qui n'ont pas passé leur bac et qui ont envie de leur passer. Ouais. Et évidemment, ils ont décidé de rester à la Villeneuve et dans les fameux locaux de l'ancien collège expérimental. Donc on va partir avec Bernard Gerde, qui est prof de lettres et qui a fondé le CLEPT en 2000. Et on va nous emmener sur place à la Villeneuve, et puis on retournera juste après en plateau.
Avec plaisir.
Des incidents violents ont éclaté toute la nuit dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble.
Une guérilla urbaine à balles réelles.
Un tramway a même été attaqué.
Les habitants du quartier de l'Arlequin à la Villeneuve constataient les dégâts d'une nuit inhabituelle.
Il est minuit lorsque les incidents éclatent.
Extrait des journaux télévisés du 18 juillet 2010.
La police intervient, mais la situation s'aggrave.
France 3, iTélé. TF1, BFM.
De violents incidents ont éclaté cette nuit à Grenoble, où vivait l'un des deux braqueurs du casino tué par la police.
Peut-être coup de malchance pour ceux qui avaient préparé la fermeture du lycée. Le coup de malchance a été qu'il y a eu ces événements pendant l'été qui sont intervenus pour un peu, comment dire, perturber le bon déroulement de la fermeture du lycée Mounier tel qu'elle avait été préparée par la région Rhône-Alpes.
Lors d'un échange de tirs avec la police.
Les policiers ont également tiré par 4 fois pour disperser la foule et assurer leur sécurité.
Très vite, le quartier s'embrase.
Oui, le quartier de la Villeneuve. Et bon, certes, il y a des problèmes. Enfin, c'est pas non plus, ça n'est pas Chicago. Et simplement, la concentration de certains problèmes sociaux, la stigmatisation qui a joué un grand rôle depuis cet été, contribue malheureusement à renforcer les phénomènes de violence. Et ça devrait justifier d'autant plus l'existence de ce lycée qui se trouve, qui recrute sur les quartiers sud de Grenoble, et qui se trouve un peu à l'extérieur, et donc qui géographiquement se trouve à un point d'équilibre et qui permet la rencontre entre des élèves venant de milieux sociaux et d'origine extrêmement variée.
Oui, donc là c'est Jérôme Soldeville qui est donc un des profs de Mounier depuis 15 ans. Et d'ailleurs, c'est le prof d'histoire géo et de chinois également. C'est un des plus combatifs des profs. Depuis le début, c'est lui qui anime le blog du lycée. C'est lui qui est un peu au taquet. Et donc, c'est lui qui résume un petit peu ce qui s'est passé cet été. Et donc, les connexions qu'on a pu faire avec la Villeneuve. On va peut-être réussir à caler le passage sur le club. Tu l'as ou pas?
Ouais, je vais mettre juste la suite de ce qu'on vient d'entendre.
D'accord, ça marche.
Sur France Inter, la radio, 13h20. À 13h, ils donnent le
d'accord.
Coup, et ça passe ensuite à 13h20.
Ça marche. Il me donne.
Vous allez peut-être reconnaître l'entrée. Voilà, ça c'était l'entrée par laquelle les élèves du collège expérimental venaient suivre les cours de physique, chimie et sciences nat.
Ouais, ça
va. Des locaux équipés.
Ça me rappelle quelque chose.
Je m'appelle Bernard Gerne, je suis enseignant, je suis prof de lettres, je suis avec Marie-Cécile Bloch, un des deux co-fondateurs du collège lycée littéraire pour tous, qui est né en septembre 2000.
C'est des locaux qui sont au-dessus de l'arpège. Là-bas, c'est les salles de classe. Ça, c'est le bureau de la conseillère d'orientation quand elle vient.
Et si sa naissance a été possible à ce moment-là, c'est parce que précédemment, nous avions créé à Grenoble une association qui marche toujours, hein, qui s'occupe de la prévention du décrochage scolaire et qui s'appelle La Bouture.
Bonjour.
Bonjour. Voilà la salle des profs. Donc là, deux élèves de terminale qui vont bien sûr nettoyer une table nickel quand ils auront fini de manger.
CLEPT, c'est un acronyme qui veut dire collège, lycée, élitaire pour tous. Le mot élitaire, à chaque fois, étonne les oreilles des gens quand ils l'entendent ou quand ils le lisent avec leurs yeux, parce que nous l'avons emprunté à Jean Villard et à Antoine Vitesse, qui donnaient cette définition-là du théâtre populaire. Ils disaient que pour eux, un théâtre populaire, c'était un théâtre élitaire pour tous. C'est une façon de dire que, parce qu'on s'adresse au peuple, on n'a absolument pas le droit d'utiliser des formes misérabilistes de culture.
Notre salle la plus grande, c'est là qu'on fait les réunions d'équipe tous les vendredis après-midi. Vous avez vu pourquoi je surveille qu'ils nettoient leur table, hein? Il y a du monde, c'est une des salles du...
Quand on a eu à choisir où on allait se parachuter avec nos 100 élèves décrocheurs, le passé de la Villeneuve avec... son aura de lieu où l'expérimentation sociale s'était menée avec succès pendant longtemps. Et on est venu s'installer à la Villeneuve. Le club a ouvert ses portes en septembre 2000 dans les locaux qu'on occupe toujours. J'y ai vécu 18 ans et j'y travaille maintenant depuis 10 ans. J'ai quelque part 28 ans de vécu à la Villeneuve.
Monsieur,
oui.
J'ai une bonne note
au frigo. Il me semble que oui. Je ne suis pas complètement sûr, mais il me semble que oui.
La typologie du décrocheur, elle est complètement introuvable. Nous avons des élèves dont les deux parents sont chômeurs depuis très longtemps et qui donnent du boulot à notre assistante sociale. Mais nous avons des élèves aussi dont les parents sont enseignants ou même inspecteurs pédagogiques régionaux. Le CLEPT est représentatif de ça. Il est des jeunes qui appartiennent à tous les milieux. Et on y tient parce que cette hétérogénéité sociale et culturelle est vraiment un plus pour nous. Il y a trois critères pour fréquenter le CLEPT. Hein. Le CLEPT n'est proposé aux jeunes qui le fréquentent que sur la base du volontariat. Le deuxième critère, c'est un critère d'âge. 15 ans minimum, 22 ans maximum. 22 ans pour intégrer, parce qu'il y en a qui intègrent à 22 et qui sortent du CLEPT à 25 hein, quand ils ont fini leur parcours. Et le troisième critère qui nous est imposé par l'institution Éducation nationale, notre ministère, c'est que les jeunes qui viennent chez nous aient au moins 6 mois, et c'est vraiment le minimum, de décrochage avéré. C'est-à-dire que pendant 6 mois, quand ils poussent la porte du CLEPT, ils n'étaient inscrits dans aucun établissement scolaire. La hiérarchie du CLEPT, c'est le proviseur du lycée Mounier. Puisque le CLEPT ne peut vivre en tant qu'établissement expérimental que s'il est rattaché à un EPLE classique. Même si je n'étais pas dans un rapport de fonctionnement avec Mounier, je dirais, en tant que citoyen, qu'il est absolument scandaleux qu'on puisse envisager au niveau politique local de fermer le lycée des quartiers sud. Voilà, d'une manière extrêmement claire, ce quartier qui a été présenté à tort comme le Bronx, avec le discours de Grenoble du chef de l'État, le Bronx emblématique des difficultés des quartiers urbains à forte concentration de milieux défavorisés, la Villeneuve, c'est absolument pas un Bronx. On le vérifie au quotidien depuis que nous y travaillons. Donc effectivement, avec Mounier, nous défendons l'idée que les jeunes qui sont issus de ce quartier puissent avoir une possibilité de poursuite d'études hors professionnalisation, parce que les lycées professionnels qui accueillent des jeunes de la Villeneuve, ils sont très très nombreux. Et on n'envisage pas de les fermer, de manière très étonnante. Hein. Mais par contre, le seul qui leur proposait des bacs d'enseignement généraux et des poursuites d'études BTS, IUT, université, c'est celui-là qu'on est en train de casser et de fermer. Donc là, il y a effectivement un scandale politique. Hein. Et le CLEPT est complètement derrière les collègues de Mounier pour défendre l'idée que ce lycée doit continuer à vivre pour lui-même, mais surtout pour les quartiers sud. Au départ, quand la lutte a été menée, ce qu'il s'agissait de sauver, c'était la reconstruction sur site du lycée Mounier, mais il s'agissait aussi de sauver ce que nous appelions l'entité Mounier. Voilà, avec les faibles effectifs, avec du coup une grande partie des enseignants qui sont reclassés ailleurs, montre qu'on a donné des coups de canif, mais très très sérieux, à ce que nous appelions l'entité Mounier. Le projet Mounier, qui était un peu unique dans sa proposition, il tenait compte de l'ensemble des offres hein, qui étaient faites à l'ensemble des publics. Il y avait des BTS, il y avait des CIPA, il y avait le CLEPT, enfin tout ça faisait Mounier. Aujourd'hui, tout ça a été désossé. Il y a un bout qui va partir à un endroit, un autre bout qui va partir ailleurs. Les quelques-uns qui vont rester ne peuvent pas à eux seuls représenter ce qu'on appelait l'entité Mounier. Ben voilà, Mounier, ses dépouilles étant partagées, beaucoup de parents, sans doute, vont aller grossir, mais on peut se demander parfois si c'est pas un biais qui avait été pensé dès le début par les décideurs. Hein. Beaucoup de parents vont aller grossir les rangs de ceux qui déjà passent du public au privé. Hein, y a l'externat Notre-Dame qui est à 100 mètres du lycée Mounier. Et voilà, avec la même station de tram quasiment, hein, on peut aller ou dans l'un ou dans l'autre.
Oui, bien sûr, Notre-Dame, c'est évidemment le lièvre que personne ne lève actuellement, mais que tout le monde a en tête. Alain Minot, parent d'élève FCPE et habitant du quartier de la Villeneuve depuis 1997. Qui ne sera jamais cité par aucun politique de la ville, parce que ce serait politiquement très incorrect que la gauche vienne dire « j'ai un lycée privé ici que je dois renforcer parce qu'il lui manque des élèves ». Donc ils ont de la place facilement. Il a été rénové il y a peu de temps par une région dont on sait par ailleurs qu'elle n'est pas complètement opposée au fait de donner un peu d'argent au lycée privé. Donc, un lycée privé qui n'est pas rempli, qui est sur la même ligne de tram, qui est à un arrêt de tram de Mounier, qui est à la même frontière sociologique, qui, dans sa partie collège d'ailleurs, a toute la population de la Villeneuve qui ne veut pas aller dans les collèges publics de la Villeneuve parce qu'ils sont trop à l'intérieur et qui les mettent à Notre-Dame parce que ça les écarte un peu, et qui après bascule sur Mounier parce que ils reprennent le chemin du public, vu que Mounier marche bien, que Mounier n'est plus dans le au cœur du quartier sud, il est un peu à la limite, ils vont à Mounier. C'est trop gros, quoi. Trop gros. 300, 500 mètres entre les deux. Il n'est pas du même côté du tram, c'est tout. Il passe d'un côté à l'autre. Donc c'est vraiment... Ça pourrait être le même lycée.
Ah mais ça, bon... Ils peuvent faire une note de versement dans la pyramide, hein. Je suis l'établissement privé.
Anthony Sparapano et je suis élève en terminale. Pour moi, c'est avant tout une atteinte à l'école publique. Je me vois mal dans 10 ans avoir un enfant et si ça continue devoir payer une école privée à mon fils.
Fermer une école, c'est ouvrir une prison. Hein. Je m'appelle Valentine, je suis élève en seconde à Emmanuel Mounier. Alors on dit qu'il y a des problèmes à la Villeneuve, on dit qu'il y a de la grosse racaille et on veut leur fermer leur établissement de secteur qui leur permet de sortir de leur quartier, de rencontrer du monde différent et qui leur permet d'avoir leur propre réflexion. Et on veut leur fermer ça et après on les pointe du doigt. Moi je dis que c'est une incohérence. personnellement, mon choix, il est fait. Moi, je sais que je vais aller en première L parce que ça me passionne, la littérature, l'histoire géo, ça me passionne. Enfin, c'est surtout le français qui me passionne.
Et donc, évidemment, ton amour, tu le vois à Mounier, c'est ça?
À Mounier, Ah oui. Pour moi, franchement, ce lycée, c'est un refuge, ouais. Je suis contente d'y être. Mais honnêtement, je n'ai pas envie de changer de lycée, moi.
Ok, c'est bien.
Alors le petit reportage sur la Villeneuve, c'était une idée de Jérôme, et là on va appeler quelqu'un.
Bah oui, on va appeler Alain Minot qui justement il vient d'intervenir dans le court extrait qu'on vient de diffuser. Alain, salut.
Bonsoir.
Oui, salut Alain. Alors je te présente, tu es donc un des parents d'élèves de Mounier, qui était membre du collectif actif depuis le mois de septembre. Je sais pas, tu pourrais peut-être nous faire un petit point d'actualité là par rapport à la situation du lycée. Il y a eu beaucoup de péripéties. Là, en septembre, il devait fermer. Puis là, ça paraît un peu moins sûr, quoi.
Eh ben voilà. Après une fermeture programmée et indiscutable en septembre, on se retrouve maintenant devant un lycée complètement ouvert, qui conserve, alors réduit dans sa partie de seconde quand même, puisque on ne conserve que 3 secondes sur les 7 qu'on avait. On a perdu des BTS. Donc c'est quand même un mini Mounier qu'on va faire, qu'on fait survivre. Mais la bagarre a payé, après quand même bientôt 9 mois de lutte continue et qui se prolonge, puisque ce soir on se rencontrait pour faire des recours contre le recteur, contre la présidence de région. Jeu continue.
Ah, donc vous ne lâchez pas l'affaire, il y a des recours juridiques, tu veux dire ça, quand...
Oui, des recours juridiques, puisque...
Administratifs, c'est ça?
Puisque aucune décision, enfin, ils ont réussi à écrire d'ailleurs dans des communiqués de presse qu'il n'y avait eu aucune décision de prise de fermeture de Mounier.
Ah bon.
Alors du coup, on leur dit, s'il n'y a pas de décision de prise, pourquoi vous le fermez, quoi?
Ils sont trop forts.
Alors toi Alain, tu t'habites la Villeneuve depuis pas mal de temps, c'est ça? Depuis combien de temps déjà?
Depuis 97.
Voilà quand même. Voilà. Et je sais pas comment tu pourrais décrire justement la situation du lycée Mounier par rapport au quartier, ou peut-être aussi les autres écoles, parce qu'il y a avant de parler de lycée, on parlait du collège Villeneuve, hein, dont moi je suis un ancien également. Et comment tu gères comment tu analyses justement le lien entre ce quartier qui est très fort et ces écoles?
Alors le lien quartier-école, c'est un lien qui malheureusement se délite de plus en plus, puisque moi j'ai eu deux enfants qui sont passés par les écoles primaires, sont passés par le collège, et pour un encore, il est au lycée. Ils ont donc fait tout le cursus dans la partie sud de Grenoble, mais on faisait partie, il y en avait un d'ailleurs de nos deux enfants qui disait « moi je suis un zombie, je suis un alien », qui se voyait dans le collège, puisque effectivement la mixité sociale qu'on a dans le quartier n'était plus du tout représentée dans les établissements scolaires. Parce que défection des parents, peur de mettre leur enfant au milieu de ceux qu'ils estiment être de mauvais élèves. Alors ils faisaient des erreurs complètes d'analyse, parce qu'il y a de très bons élèves quand on est issu ou du Vietnam ou du Maghreb ou du Chili. Mais c'est joli sur la photo à dire quand on parle en public de l'éducation, mais par contre quand à mettre ses enfants dans les mêmes milieux, c'était beaucoup trop dur pour beaucoup. Et donc ils les mettent en général dans le privé ou cherchent des lycées très élitistes ou qui ont des cotes comme Europol, Marie Curie.
Avec des noms de dérogation. Ouais.
Avec de sacrés points d'interrogation sur ce que c'est que la cote d'un lycée, bien sûr, parce que c'est complètement illusoire, mais c'est la rumeur, c'est comme la rumeur d'Orléans, quoi. Une fois que c'est bien ancré, ça prend bien sa place, et ça nous tue, ça nous a tué une partie des écoles primaires, ça est en train de nous tuer le collège Lucie Aubrac, et c'est en train de tuer aussi Mounier. Alors là, ils y ont mis quand même des moyens très lourds, puisque... Ils ont été jusqu'à dire que ce lycée s'écroulait. Ça fait 9 mois qu'on leur demande tous les résultats de mesures et le lycée bouge effectivement, mais comme la température extérieure, donc comme tous les bâtiments de France. Donc c'est assez drôle.
Et tu sais quoi, Alain, en face de moi, il y a Emiliano qui tout à l'heure me disait en aparté, me disait, mais moi j'ai vécu à Tesserre. Mmh. Un quartier de Grenoble, on ne se souvient plus trop parce qu'il était tout petit. Mais alors c'est quoi la nouvelle de Tesserre là, qu'on pourrait lui donner?
Eh bien, la nouvelle de Tesserre, c'est qu'il y a le lycée Argouges dedans, qui était quand même un lycée. Alors là, ils avaient fait très fort. Ils ont fait un lycée qui n'était qu'à vocation professionnelle, qui s'est révélé être un bon lycée professionnel avec de très bonnes réussites, en particulier dans les tissus. Et c'était un lycée en face de Tesser, dans le quartier, quoi. Et c'était un lycée Payron, évidemment, il était fait pour brûler. Mais là, ils l'ont rénové et pour la première fois cette année, parce que ce lycée vient en concurrence avec Mounier, alors il y a eu...
Ouais,
une bagarre là-dessus, ouais. Même s'il est, il est à la limite des quartiers sud, lui aussi, mais dans un, dans une voie un peu plus à l'est, un peu plus excentrée. Toujours est-il que ce lycée, maintenant, a pour la première fois bénéficié d'un décret de carte scolaire, ce qu'ont tous les lycées normalement tous les ans. Et ben, ce lycée, depuis X années, n'avait aucune carte scolaire. C'est-à-dire vraiment, c'était, on le mettait, il était au banc de la société. Là, avec la mort de Mounier, il retrouve une vie. Tant mieux pour lui, d'ailleurs. Hein. Ouais. Bonne chance. Le quartier de Tesser, c'est un quartier qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup évolué, qui reste un quartier extrêmement populaire, mais où il y a eu un relatif assainissement de population par des rééquilibrages, des améliorations de bâti, des petites copropriétés qui ont été mises en place. Il y a eu un travail assez correct sur Tesser qui a donné des résultats relativement probants. Bon, il y reste des bandes à tourner, etc., mais c'est actuellement un peu moins violent que sur Grenoble, sur Villeneuve.
Pascal, tu veux prendre la main, que c'était quand même ton débat.
Oui, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir le lien, justement, Raj disait, au collège Douaneau, en fait, donc dans le quartier des Amandiers à Paris, il s'est passé quasiment exactement la même chose. Donc peut-être, Alain, ça va te rappeler ton début d'année. Donc Raj, tu disais à Douaneau, il s'est passé ça,
mais en fait,
à moins grande échelle quand même.
Oui, mais c'était quand même dans la stratégie de l'EDUCNAT, enfin je sais pas d'où ça découle, de Bercy ou quoi, c'était de réduire les frais dans le quartier, quoi. Et donc ce qui s'est passé, c'est que dans la même rue, on est la rue des Panoyaux, donc notre collège est le plus vieux, il y a quelques années, ils ont ouvert un autre collège. La particularité, par contre, la différence, c'était que le nôtre, c'est une ZEP. Et l'autre était un collège normal, quoi.
Il était plus bas dans la rue.
Et dans la rue des Panoyaux, c'est plus bas. Il a de la gueule et tout, mais voilà, quoi. Il y a deux ans, qu'est-ce qu'on apprend, en fait, c'est que, en fait, on était déjà, moi, quand j'étais arrivé, il y avait déjà 6 troisièmes et 5 sixièmes. Et la rentrée 2009, si je me rappelle bien, en fait, on nous annonce qu'on n'a que 4 sixièmes. Et avec bien sûr des parents qui viennent en disant, bon, bah, mon enfant n'a pas de collège, on nous dit de l'envoyer à Besson, et donc voilà. En fait, il y a quand même un mouvement qui s'est créé de la part des profs et de le reste de l'équipe pédagogique. Et on a fait, comme vous, des manifestations au rectorat. Donc nous, l'avantage, c'est que le rectorat de Paris, il est à côté, quoi, à Gambetta. Et donc, du coup, on a manifesté sur un mois et deux, ou deux, même, voire même, ouais, ça s'est prolongé sur deux mois, pour enfin pouvoir obtenir l'ouverture d'une cinquième, sixième, qui a pu éviter une mort un peu lente du collège. Qui était programmé, et après bien sûr fermer ce collège pour réduire les frais et avoir une ZEP en moins à payer, quoi.
Et puis un recentrage sur les quartiers un peu moins populaires.
Bah ouais, parce que le 20e, c'est la particularité là du coin où on est, c'est qu'aussi il y a pas mal de bobos et tout, quoi. Donc c'est bizarre d'ailleurs, parce que les représentants des parents d'élèves du collège, si vous voulez, ils sont pas représentatifs de la population qui va dans la majorité de la population qui va au collège, quoi. Donc bon, ça pose encore d'autres problèmes. Mais c'est bien si on peut enterrer un peu une ZEP, garder un petit collège qui fait bien. Pour que les bobos ils soient rassurés pour leur petit môme.
Oh, la bonne conclusion quand même, c'est que la lutte a quand même marché, quoi, là-dessus. Ouais, dans les deux cas, la lutte a payé, quoi.
Comme un Mounier. Et Alain, voilà. Peut-être pour finir, qu'est-ce qui reste du discours de Grenoble aujourd'hui à la Villeneuve ?
Alors il reste une grande excitation qui avait été entretenue auprès des jeunes du quartier, parce que c'est vrai que leur mettre des Robocop, ça les avait mis dans un état d'excitation extraordinaire. Donc là on était carrément, ça ressemblait plus à Beyrouth qu'à autre chose. Depuis, ils ont un peu calmé le jeu là-dessus. Mais alors chose extraordinaire, après un discours de Grenoble où on dit on va nettoyer, etc. Là, on a depuis 15 jours, on avait des mecs qui balançaient des fusées éclairantes, des pétards, etc. Mais toute la nuit, de minuit jusqu'à 6 heures du matin, sans arrêt. Donc c'était des bombes, des machins, ça pétait de tous les côtés. Et ben là, pas un flic. Absolument personne.
Ouais, c'est peut-être les mêmes, hein.
C'est pas grave. C'est peut-être les mêmes, on ne sait pas trop. Mais toujours est-il que c'est le quartier a retrouvé sa vie classique avec ses problèmes classiques. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait, rien, c'est exactement pareil. Si ce n'est que ça a beaucoup chauffé pendant un temps. Quoi.
Ouais. Tout à l'heure, tu parlais juste du lycée Aubrac. Tu peux nous expliquer pourquoi justement il est déserté? Tu crois que il va mourir à petit feu lui aussi?
Eh ben, on le tue simplement par la désertion des parents qu'on n'arrive pas à enrayer, parce que on ne sait pas valoriser un établissement qui a une très très bonne réussite. C'est toujours pareil. Si on regarde le niveau des élèves à l'entrée et le niveau à la sortie, c'est un collège qui marche du feu de Dieu. Mais effectivement, comme il prend des élèves qui sont vraiment ceux qui n'ont vraiment pas pu aller ailleurs, c'est-à-dire ceux dont les parents n'ont pas su faire de dérogation, n'ont pas su jouer de leur relation ni rien, effectivement, restent tous ceux qui sont issus de milieux défavorisés et en général un peu moins dans la maille culturelle d'un gamin normalisé pour l'école, quoi. Donc du coup, malgré tout ce qu'on disait sur ces enfants, moi je n'ai eu cesse de dire à des profs qui disaient ils sont cons ces gamins, de leur dire est-ce que vous savez ouvrir n'importe quelle voiture en moins d'une minute, bah oui, ils savent le faire. Donc ils mémorisent, ils savent reproduire, ils savent faire
c'est
des expériences.
C'est pas dans le livret personnel de compétences.
Mais voilà, c'était pas dans le même livret. Et par contre, on n'a pas su les attacher à une autre culture et les approcher avec autre chose. Mais du coup, ça amène beaucoup de parents à dire je ne peux pas mettre mon fils là ou ma fille là-dedans. Encore pire avec les filles d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est pas sans problème non plus. Et que bah du coup c'est un bahut qui a été prévu pour 700 élèves et qui en a maintenant 215 quoi.
Donc, ouais, on connaît ça dans les quartiers populaires à Paris aussi.
Bah, voilà.
On voit avec Douaneau, la Goutte d'Or, hein, moi où je suis parent d'élèves, avec beaucoup de gens qui essayent de partir sur la butte Montmartre pour la Goutte d'Or ou voilà. de l'autre côté de Ménilmontant pour. Voilà, les amendiers. Puis avec l'encouragement du côté du rectorat à faire ça, on va se retrouver dans une situation qui s'empire. En tout cas, on continuera à lutter. Bravo Alain et ton entourage pour cette lutte. Et n'hésite pas à donner des nouvelles. Enfin, je pense que Jérôme en aura et qui nous tiendra au courant.
Pas de problème.
On pourra donner des nouvelles à la radio régulièrement.
Je garderai le lien.
Merci beaucoup d'avoir appelé. Bonne soirée.
Merci Alain.
Pareillement à vous.
Merci Alain, salut.
Plus, salut.
Alors là, je crois que l'émission arrive à son terme. Donc c'est le moment aussi peut-être de redonner les petits rendez-vous urgents pour conclure. Il nous reste donc 2 minutes pour conclure là-dessus. Est-ce que vous avez un truc à rajouter là qui vous tenait à cœur, parce que on va être obligé de finir vite maintenant.
Non, enfin, on va continuer.
Sur votre quartier?
Ouais.
Moi je ressors juste d'une cérémonie où voilà, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour un peu plus aider les gamins qui ont du mal au début à s'intégrer dans le système scolaire. Et voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a des bonnes choses qui sont encore, qui se mettent en place toujours. Comme le coup de pouce.
Ouais, moi je voulais signaler que dans la Goutte d'Or, là, on s'était connu avec une sacrée grosse bande de parents sur une lutte pour une ouverture de classe et que cette grosse bande de parents. Elle commence un peu à se disloquer avec le temps, parce que c'était il y a 5 ans, mais que cette grosse bande de parents, elle est passée de la maternelle à l'école primaire du quartier, que maintenant on s'est battu avec la mairie, on s'est battu contre la mairie, pardon, pour faire refaire la rue qui est devant l'école, qui est une vraie rue pourrie, dégueulasse, qui pue, avec une route défoncée, les voitures garées n'importe comment, etc. Et la rue là, elle va être refaite, on a gagné, le budget est tombé, etc. Il y a des choses qui font que on peut rester dans le quartier, on peut vivre dans le quartier, et que j'avoue un certain agacement quand je vois certains venir profiter des loyers et par contre retirer leur môme de l'école, alors que l'école elle est à construire tous ensemble et que c'est déjà assez dur comme ça l'éducation nationale pour nos mômes. C'est pas vraiment la peine d'aller les mettre dans des trucs d'élite où ils risquent d'être comme disait Jérôme sous pression des résultats, etc. Alors que finalement dans notre quartier on va apprendre des tas de choses à vivre ensemble, on habite ensemble, autant qu'on apprenne ensemble, quoi. Donc les rendez-vous importants vite fait avant de conclure. Les rendez-vous importants. Donc Emiliano, toi tu joues avec 4 autres groupes de rap.
Voilà,
samedi
18 juin au Vignoles, 33 rue des Vignoles, métro Avron. à la CNT en soutien à l'ETREPSI 75, la CNT, voilà. À voilà. Partir de 19h, vient des nombreux.
Et alors, pour les rendez-vous urgents, demain matin à l'aube, rendez-vous 9h avec l'inspecteur d'académie au rectorat de Paris, 94 avenue Gambetta, pour déposer les courriers d'opposition au fichage de nos enfants. Donc ça, ça concerne les parents d'élèves de Paris.
Ouais, ouais, faut venir, même si vous avez déjà envoyé une lettre aussi, qu'il y aura une délégation qui sera reçue par monsieur l'inspecteur. Mais ça
voilà, GG, il n'aime pas trop quand il y a des rassemblements, donc venez nombreux, quoi.
Voilà.
Voilà.
Une petite parenthèse, ouais, juste une petite parenthèse musicale assez sympa. Bon, c'est un rendez-vous un peu plus tard, c'est le 25 juin, pas loin là, à Nation, à Alexandre Dumas, au Piston Pélican, c'est le groupe qu'on a entendu plus tôt, Boom Shakti, samedi 25.
Je peux juste finir sur Mounier, parce que j'ai oublié
de
citer mon copain Bernard qui a écrit la musique originale du documentaire. Si ça vous intéresse d'écouter toute l'histoire de Mounier, avec d'autres témoignages, le docu que j'ai publié en autoproduction et autogestion, ça j'y tiens.
Et vous pouvez
le retrouver. Il y a un triptyque, trois parties sur reflet.info, reflet au pluriel. Donc voilà, j'ai publié ça, c'est mon blog, et j'ai publié ça dessus il y a quelques jours. Donc vous pouvez y aller, il y a du texte, des photos et du son. Voilà.
Greg.
Oui, on va aussi annoncer quand même la sortie du dernier numéro de notre école qui parle des compétences. Compétences, résistance, donc notamment par rapport à bas élèves, mais aussi par rapport au livret personnel de compétences. Donc voilà, numéro très intéressant qui a été élaboré avec l'émancipation. Et à savoir que le prochain numéro, le numéro 30, parlera d'école et famille. Donc là aussi, la question du quartier, la question des liens entre école et quartier risque d'être à l'ordre du jour là aussi.
Ouais, donc important à rappeler. Donc toutes les informations pour les abonnements, les commandes, etc. sur le site de la Confédération Nationale du Travail, Fédération des Travailleurs de l'Éducation. Donc www.cnt-f.org/fte. Fédération des travailleurs de l'éducation, ou alors sur le site de Notre École directement. En Notre École, c'est N-A-U-T-R-E, jeu de mots, attention, N apostrophe normalement, mais pas dans l'adresse, N-A-U-T-R-E, école, tout collé, N-A-U-T-R-E-E-C-O-L-E, point quelque chose, et Notre École. Donc c'est, de toute façon, il y a un lien direct sur le site de la Fédération des travailleurs de l'éducation, CNT-FTE, Fédération des travailleurs de l'éducation.
Voilà, justement, vous pourrez voir en ligne des articles, notamment sur le CLEPS.